Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 30 ans et je tricote. Je tiens la boutique Le Fil Café à Bayonne, dans le Pays Basque. C'est à la fois une mercerie spécialisée tricot et un salon de thé. Je vis à Bayonne et je suis originaire des Landes, d'où ce petit accent qui m'échappe parfois. Dans ce podcast, je parle de tricot, de crochet, de laine et de tout ce qui s'y rapporte, de près ou de loin. Pour ce deuxième épisode, j'ai voulu partager avec vous ma pratique et surtout mes questionnements à propos des réseaux sociaux. En tant que tricoteuse et plus largement en tant que personne intéressée par les loisirs créatifs, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour l'inspiration et puis à plus petite échelle le partage de mes réalisations. Et en tant que commerçante, les réseaux sociaux me servent à faire vivre ma boutique sur internet et à être visible, à rester visible auprès du public. Alors par réseaux sociaux, j'entends surtout Instagram, c'est surtout d'Instagram dont je vais parler dans cet épisode, même si je possède aussi des comptes sur Facebook, sur Snapchat, sur Pinterest, etc. Pourquoi Instagram en particulier? Parce que c'est la force d'Instagram, en fait, c'est le visuel, c'est un réseau social où la photo domine, c'est ce qu'on voit en premier, donc c'est particulièrement adapté, je pense, aux loisirs créatifs, et c'est pour cette raison j'imagine qu'il y a beaucoup de tricoteuses qui se retrouvent sur ce réseau. Alors, avant de me lancer plus avant dans l'épisode, je précise qu'il risque d'y avoir un peu de bruit en fond parce que j'enregistre à la boutique et qu'il y a la rue qui passe juste devant qui est parfois un peu bruyante. Donc j'espère que ça s'entendra pas trop dans l'épisode. Alors, moi j'ai commencé Instagram en 2012, je pense, mais c'était pas du tout par rapport au tricot. En fait, ce qui me plaisait, ce qui me séduisait dans la proposition d'Instagram, c'était le fait de pouvoir capturer des moments, des instantanés en fait, de la vie quotidienne. Donc je m'imaginais, à chaque fois que je passais un moment sympa ou que je passais devant quelque chose de joli, pouvoir le capturer en photo de manière assez spontanée, facile, et me créer comme ça une espèce de galerie photo personnelle de bons souvenirs, de souvenirs agréables. Et évidemment, j'aurais pu faire ça avec un appareil photo, mais en fait, l'intérêt d'Instagram, c'est que c'est sur le téléphone, donc on est sûr de l'avoir toujours sur soi. Et puis l'emploi des filtres en fait permet de rendre jolie une photo qui a été prise avec un appareil qui n'est pas très performant ou dans un environnement qui n'est pas très favorable. Donc c'est vrai que ça permet de vraiment enjoliver les photos assez facilement. L'idée de la galerie photo, c'était l'idée de départ. C'est vraiment ça que j'imaginais, c'est vraiment ça qui m'a plu dès le départ. Mais dans la réalité, c'est pas tout à fait ça qui s'est produit, parce que il y avait une donnée que j'avais pas du tout prise en considération, à laquelle j'avais pas pensé, c'est qu'en fait c'est un réseau social, donc il y a d'autres utilisateurs et utilisatrices sur Instagram, et que le principe c'est que ces autres personnes peuvent voir ce que je publie. Forcément, on ne s'exprime pas de la même façon quand on s'adresse juste à soi-même, qu'on fait quelque chose juste pour soi, que quand on s'adresse à une autre personne ou à 2000 potentielles autres personnes. Évidemment, vous n'écrivez pas pareil dans votre journal intime que quand vous écrivez un roman, j'imagine. Donc l'attitude et le discours changent, et je pense que c'est quelque chose de normal et de naturel en fait. Mais ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis mise à publier dans l'attente de retour, chose que j'avais pas du tout envisagée. Et en quelque sorte, c'est comme si je publiais des photos en attendant l'approbation ou la validation de ces autres personnes. Ça, c'est quelque chose qui m'a peut-être, mais j'y reviendrai tout à l'heure, poussée à me détourner de ce réseau. Ma pratique aujourd'hui, donc, elle est très différente. Déjà, j'ai deux comptes. Ça, c'est récent. Donc, je vois vraiment les deux versants d'Instagram, parce que j'ai donc ce compte personnel dont je me suis un petit peu détournée depuis le mois d'avril, depuis ce printemps. Et j'ai un compte professionnel pour la boutique. Donc, ça, c'est vraiment l'autre versant. Et mon compte professionnel, c'est très différent, la façon dont je l'utilise, parce que pour moi, c'est un véritable outil de communication, donc c'est un outil commercial, voilà. Je consacre à peu près une demi-heure par publication à l'imaginer, à la préparer, à prendre la photo, etc. Un petit peu plus de temps pour les stories aussi. Et c'est quelque chose qui est vraiment organisé, qui est prévu à l'avance dans mon planning, à jour fixe, donc c'est 3 fois par semaine, le mardi, le jeudi, le samedi, le matin, plutôt fin de matinée. Bon, les stories, c'est beaucoup plus aléatoire parce que c'est quelque chose que je peux faire tout au long de la journée. Des fois, j'en fais pas. Enfin, voilà, c'est plus aléatoire. Mais en tout cas, les publications dans mon fil d'actualité, c'est vraiment prévu, organisé, à l'avance. Et donc cet outil, j'ai vraiment appris à l'utiliser comme si c'était un peu un nouveau logiciel, quoi, avec ses contraintes. Donc comme si je devais me former un nouveau logiciel de compta, en fait. C'est un peu le même principe. Et c'est surtout que Instagram, la principale difficulté, en fait, la principale contrainte, c'est son algorithme. L'algorithme d'Instagram, je fais un petit rappel, il est apparu en 2016, donc je pense que tout le monde l'a plus ou moins remarqué. Avant cet algorithme, on voyait les publications dans l'ordre chronologique. Donc si vous étiez abonné à plusieurs comptes, vous voyez les publications de ces comptes dans l'ordre chronologique de leur publication, donc de la plus récente à la plus ancienne. Et désormais, c'est différent, donc depuis 2016. L'affichage dans votre fil d'actualité, il se fait plus en fonction de la date de publication, il se fait en fonction de plusieurs critères, mais le plus important, c'est le taux d'engagement. Alors le taux d'engagement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement les likes, les commentaires, les partages en privé, les réactions à vos stories, donc c'est tout ça. Plus les réponses que vous faites à ça et sous quel délai vous les faites. Donc si vous interagissez en fait beaucoup avec votre communauté d'abonnés, si vous répondez aux commentaires, si vous répondez aux messages, ça va faire augmenter votre taux d'engagement et donc ça va faire augmenter votre visibilité. Ce qui est aussi déterminant pour la visibilité, c'est le fait de publier très régulièrement. Le fait d'être spontané. Alors, bon, je vous dis ça, mais j'ai pas accès évidemment à l'algorithme pour vérifier hein, tout ce que je dis. C'est des informations que j'ai glanées sur le net. Grosso modo, je vous les retranscris là comme ça. Pour être spontané, en fait, c'est Instagram saurait a priori combien de temps vous passez sur chaque publication. Et plus vous y passez de temps, et plus ça va faire baisser votre visibilité. Parce que là, le but d'Instagram, c'est que vous soyez le plus spontané possible. Il y a ça, il y a le temps que vous passez sur la publication, il y a le fait d'utiliser toujours les mêmes hashtags, ça peut vous faire baisser aussi en visibilité, voire même carrément disparaître pendant un certain temps. Il y a le fait de modifier les posts après leur publication, donc il est déconseillé de le faire puisque du coup ça va faire baisser votre visibilité également. Voilà, après il y a d'autres conseils comme ça que j'ai pu trouver sur internet, comme le fait de jamais mettre les hashtags en commentaire, mais bien les mettre sur la publication, sinon ils ne seront pas visibles, etc. Donc il y a tout un ensemble de petites techniques, de petites contraintes, de petites choses à éviter qu'il faut apprendre en fait. Donc c'est pour ça que j'en parle comme un outil. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la phrase « quand c'est gratuit, c'est vous le produit ». Moi je trouve qu'elle s'applique particulièrement bien à Instagram. Pour moi c'est gratuit en tant qu'utilisatrice de ce réseau et pour mon compte personnel également. Mais si je suis le produit, c'est qu'il y a des clients. Qui sont les clients? En fait, les clients, ce sont les entreprises comme la mienne, les marques. Évidemment, les entreprises n'achètent pas des personnes, elles achètent en fait de la visibilité. C'est ça que vous, en tant que produit, vous représentez de la visibilité. Et donc moi, en tant qu'entreprise ou d'autres marques, etc., on peut acheter de la visibilité via des posts sponsorisés. Donc vous les voyez peut-être passer dans votre fil d'actualité d'Instagram. C'est des posts que, a priori, vous n'étiez pas censé voir, mais parce qu'il y a eu un achat de fait, donc le prix est plus ou moins élevé en fonction du temps pendant lequel ça reste visible. Et donc, vous voyez passer ces publications-là parce qu'il y a une entreprise derrière qui a acheté ce post sponsorisé. Ça nous permet, en tant qu'entreprise, de gagner peut-être des followers, de gagner des likes, de gagner de l'engagement. Donc, c'est toujours l'engagement qui est un petit peu le nerf de la guerre. Après, il y a autre chose sur Instagram et qui n'a rien à voir en fait avec Instagram en tant que structure, c'est l'achat de likes et de followers. Ça, c'est plus des robots que vous payez et qui vont vous abonner en masse à plein de gens, qui vont du coup, par réflexe, s'abonner à vous en retour ou liker votre dernière publication. Et ça, c'est pas quelque chose qu'il est conseillé de faire parce qu'en fait, ça vous amène pas vraiment de l'engagement. Ça va pas vous amener des followers qui vont vraiment suivre votre activité, la commenter, etc. Ça, c'est plutôt quelque chose qu'Instagram combat d'ailleurs. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir, c'est pas eux qui proposent ce service-là. Voilà, pour ma pratique en tout cas. Alors tout à l'heure, je parlais de questionnement. Donc je vais développer ça maintenant. Ces questionnements que j'ai sont apparus relativement récemment. Ils sont évidemment directement liés à mon mode de vie qui a légèrement changé depuis que je suis passée au zéro déchet, ou du moins que j'essaye. Je pense que je vais vraiment de plus en plus vers un mode de vie minimaliste. Et j'ai vraiment pris conscience assez récemment que j'avais un problème avec mon téléphone, que c'était un vrai problème d'addiction en fait à mon téléphone. Alors pas qu'à Instagram, mais Instagram fait partie du problème parce que c'est une des applications que j'utilise le plus. Et ça a pris beaucoup d'importance dans ma vie parce que j'y passe beaucoup de temps. Et ce temps-là, je le passe forcément au détriment d'autres choses. Et je me suis rendu compte que ces autres choses, c'était des choses qui avaient du sens, des choses utiles, donc comme par exemple créer du lien. Plutôt que de faire ça, je suis sur mon téléphone. Voilà. Évidemment, j'ai une problématique assez importante, c'est que je suis obligée d'utiliser mon téléphone, bon déjà pour passer des appels, etc. Mais surtout, je suis obligée d'utiliser Instagram pour le boulot, parce que je ne sais pas si vous avez déjà testé l'application Instagram sur votre PC, si vous en avez un. Moi, je l'ai testé parce que ça m'est arrivé d'oublier mon téléphone chez moi, et donc pour pouvoir répondre aux commentaires depuis l'ordinateur du boulot, j'ai installé l'application Instagram, et en fait, elle est très peu ergonomique. Alors déjà, je pense que vous n'avez pas toutes les possibilités, je ne sais pas si vous pouvez répondre aux stories, par exemple. En tout cas, le seul appareil photo qui est disponible, c'est celui de la caméra de l'ordi qui est pas génial, donc ça fait pas des super photos. Et puis donc il y a certaines fonctionnalités qui ne marchent pas, grosso modo, c'est pas ergonomique, donc c'est pas pratique de l'utiliser sur l'ordinateur. Donc il vous faut votre téléphone. D'où le problème que j'ai, parce que du coup, si je veux m'éloigner de mon téléphone, il faudrait que j'arrive parfois à me couper complètement de ce dernier. Or je ne peux pas. Évidemment, il faut quand même considérer. On va peser le pour et le contre, il y a quand même des avantages à Instagram, on va pas non plus en parler que en mal. Le principal avantage, je pense, c'est son aspect communautaire. Moi, avant d'ouvrir ma boutique, je me sentais un peu isolée dans ma cambrousse au niveau tricot. J'étais quand même la seule ou quasi la seule, par exemple, à connaître Ravelry, à m'intéresser aux modèles des designers indépendants. J'avais des amis, j'ai toujours des amis qui tricotent, mais qui ne connaissent pas forcément Ravelry, qui n'ont pas du tout la même pratique du tricot que moi. En vérité, avant que j'ouvre la boutique, il n'y avait vraiment qu'une seule personne que je connaissais avec qui je pouvais partager cette pratique-là. Donc Instagram amène évidemment déjà de l'inspiration. Mais aussi amène le sentiment qu'on fait partie d'une communauté. Et alors l'intérêt principal aussi, c'est le fait que ça peut déboucher sur de vraies rencontres. Là, par exemple, récemment, il y a eu le Trail Tricot. Il y en a d'autres aussi, des réunions plus informelles un peu partout en France. Et ça, je trouve que c'est vraiment un des intérêts d'Instagram, parce que sans Instagram, je pense que ça n'aurait pas pu avoir lieu, en fait. Donc le fait de pouvoir organiser des rencontres tricot de la vraie vie, c'est un super avantage d'Instagram, mais du coup, c'est peut-être le seul. Voilà. Alors les inconvénients, évidemment, j'y viens. Donc pour moi, il y en a plusieurs. Déjà, le premier, c'est que c'est chronophage. Et que tout est pensé, tout est fait pour que vous y restiez le plus longtemps possible. Déjà, il n'y a pas de fin à Instagram. Si vous scrollez vers le bas de votre écran, vous ne vous arrêtez jamais. Il y a jamais un moment où ça se termine, en fait. Donc vous pouvez y passer un temps infini. En fait, c'est infini. Et puis l'algorithme qui a été mis en place, il vous force à être présent, et il vous force à répondre vite. Il est vraiment pensé pour que vous y passiez le plus de temps possible. Ça va être par exemple augmenter votre visibilité si vous répondez aux commentaires en moins d'une heure. Tout est vraiment fait pour que vous soyez connecté le plus longtemps possible, et ça a un intérêt pour les gens qui achètent des posts sponsorisés parce que de cette façon ils s'assurent d'avoir de la visibilité. la visibilité ne marche que si les utilisateurs sont présents le plus souvent possible sur le réseau. Un deuxième inconvénient d'Instagram, c'est le côté fausse spontanéité. Tout est fait pour qu'on donne la meilleure version de soi-même, en fait. Donc c'est quelque chose que j'expérimente aussi bien sur mon compte personnel que sur mon compte professionnel. On va avoir tendance à poster les chouettes moments qu'on passe et qui ne sont pas forcément représentatifs de la vraie vie, même si elles en font partie. Par exemple, je vais poster un après-midi sur ma terrasse à lire un livre, alors que en fait, les 3 semaines qui ont précédé, il a fait un temps pourri, j'ai regardé des films débiles sur Netflix en mangeant du chocolat, donc c'est pas tellement représentatif. Et puis, à titre professionnel, quand je poste des photos de la boutique, il y a quelque chose aussi que je fais sans pouvoir m'en empêcher, c'est que je recadre les photos pour qu'on ne voit pas certains détails de l'image qui seraient moins beaux, en fait, moins montrables, entre guillemets. C'est le cas, par exemple, pour ce qu'il y a de l'autre côté de la rue. Il y a un immeuble qui est en train de se délabrer complètement, donc ils ont mis des étais, ils ont mis des bâches... Mais il est surtout colonisé par les pigeons, il n'est pas très beau, les grilles du local du rez-de-chaussée sont fermées. Et quand je prends des photos de l'intérieur du magasin, j'ai tendance à les prendre sous un angle qui fait qu'on ne voit pas cet immeuble. Si je prends des photos depuis l'extérieur, je me mets un peu sur le côté pour qu'on ne voit pas le reflet en fait dans la vitre ou qu'on ne le voit pas trop. Donc c'est une manière en fait de faire des petits arrangements avec la réalité. C'est quelque chose qui m'exaspère un petit peu sur d'autres comptes et pourtant je le fais aussi chez moi. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup sur des comptes que d'ailleurs j'ai arrêté de suivre parce que je trouve que ça met une pression inutile aux gens. Quand vous voyez des comptes hyper léchés, des photos de famille où il n'y a pas un truc qui dépasse, les enfants sont bien propres sur eux, c'est tellement irréel en fait. Et en même temps, c'est réel parce que ce ne sont pas des comptes d'entreprise ou de marque, ce sont des comptes de gens, de vrais gens comme vous et moi, et donc on se demande comment ils font en fait eux pour avoir une maison bien rangée, etc. etc. Bon, en réalité, il a peut-être fallu 1 heure pour ranger la maison avant de prendre la photo, c'est probable, mais c'est pas écrit, et nous ce qu'on voit, c'est juste la photo de la super maison rangée. Et il suffit qu'on lève les yeux et qu'on regarde chez soi, et c'est vachement moins bien rangé. Du coup, ça se met toujours une petite culpabilité. Je pense qu'honnêtement, on n'a pas besoin d'avoir plus de culpabilité. On se la met déjà très bien tout seul. Donc moi, c'est quelque chose qui me dérange aussi. C'est ce côté, toujours une version un peu lisse, un peu édulcorée de la vie. Je commence à être beaucoup plus sensible aux personnes qui mettent des photos de la vraie vie. Ou qui mettent 2 photos, par exemple, la photo bien cadrée, bien comme il faut, puis la photo suivante, c'est genre la même photo, mais avec tout le bazar qu'il y a derrière. Au moins, ça dédramatise un peu le truc, et je trouve ça sympa. Un troisième inconvénient à Instagram, c'est le fait de ne pas être présent au milieu des autres, et ça, c'est peut-être ce qui m'a le plus amené à faire attention à tout ça. C'est, par exemple, quand vous mettez votre téléphone sur la table quand vous êtes au restaurant, moi je le fais, alors je l'ai pas forcément sur la table mais je l'ai dans mon sac et je le consulte régulièrement et je me dis toujours mais c'est au cas où, mais en fait c'est au cas où quoi? Qu'est-ce que j'attends qui se passe? Qu'est-ce que j'imagine qui va se passer? Quelle serait la raison pour laquelle il serait absolument indispensable et très important que j'ai mon téléphone sur la table et que je puisse le dégainer à tout moment? En fait il n'y en a pas. Si je suis avec des potes à un apéro, j'ai pas besoin de mon téléphone, j'ai pas besoin d'Instagram, j'ai pas besoin d'aller voir quelle tricoteuse a posté une photo là dans les 10 dernières minutes. C'est vraiment pas important là, quoi. Pas à ce moment-là. Et pourtant, je le fais. Et je pense que c'est parce que c'est ce côté, c'est très accessible, c'est très facile. Et puis, ça permet aussi de se couper des conversations. Il y a des fois où, effectivement, il y a des conversations qui m'intéressent pas. Je pense notamment en ce moment, j'ai des amis qui parlent beaucoup de vélo parce que c'est leur passion. Mais moi, c'est pas ma passion. Et parfois, bon, vous voyez comment c'est les conversations passionnées entre gens passionnés. Ça peut être par exemple pour le tricot. On peut en parler pendant des heures, quoi. On va parler des dernières aiguilles qu'on a achetées, tel truc qu'on a vu, tel modèle que machin a fait, etc., etc. la laine truc, la couleur bidule, enfin, ça peut prendre vraiment du temps de parler de tout ça. Donc moi j'ai des amis qui font ça avec le vélo, qui parlent de leurs achats de vélo, du prochain vélo qu'ils vont acheter, de tels accessoires qu'ils vont acheter, qu'ils vont faire ci, de telles courses qu'ils vont faire, de telles balades, de tels coins qu'ils sont allés visiter, de blablabla. Et moi, comme je suis un peu étrangère à tout ça, j'ai tendance à me couper complètement de cette conversation. Et mon réflexe, c'est d'aller sur Instagram. Et en fait, je me dis pourquoi? Parce que au final, il suffirait juste que je leur dise que je me sens un peu larguée dans leur conversation. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait tous ensemble trouver un nouveau sujet de conversation qui serait peut-être plus, pas forcément plus intéressant, mais qui permettrait à tout le monde de participer, à tout le monde de se sentir inclus. Sauf que c'est pas du tout quelque chose que je fais. Moi, mon réflexe, c'est vraiment d'aller sur Instagram. Alors, ça vaut aussi, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand vous avez du temps à tuer, je sais pas, par exemple, vous attendez pour le contrôle technique, j'en sais rien, j'essaye de plus en plus souvent de me dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire à la place? Parce que, évidemment, mon premier réflexe, ça va être d'aller sur mon téléphone, alors pas forcément que sur Instagram, mais peut-être aller lire des articles ou des trucs comme ça, mais au final, moi qui dis souvent que j'ai pas le temps de lire ou que je lis plus, ben, y a des moments où en fait, à la place d'être sur mon téléphone, je pourrais très bien prendre un bouquin, tout simplement. Mais encore faut-il avoir de nouveau le réflexe de le faire, parce que je pense que je l'ai complètement perdu, ce réflexe. Et un quatrième inconvénient que je trouve à Instagram, c'est que contrairement à son nom réseau social, c'est un outil qui au contraire apporte de la solitude. Alors il est pas le seul, hein. Facebook c'est la même chose. Pour moi c'est pas du tout social en fait, dans le sens où ça crée pas de vrais liens. C'est un peu impersonnel. Alors évidemment que ça peut créer des liens quand suite à des rencontres ou des échanges sur Instagram, vous démarrez une vraie amitié, vous organisez de vraies rencontres. Là, oui, Instagram, à ce moment-là, serait plus un tremplin vers, effectivement, une vie sociale. Dans l'ensemble, je trouve quand même que c'est plutôt un vecteur de solitude, en fait. On a une fausse impression de partage, ou d'échange, on va dire, avec le restant du monde. Mais finalement, qu'est-ce qu'on partage et à qui on le partage? En fait, j'ai l'impression qu'on partage un peu à tout le monde et à personne en même temps. Alors évidemment, moi, je suis toujours contente quand je publie quelque chose d'un peu personnel sur Instagram et que j'ai des retours par message, ça fait toujours plaisir, mais c'est de très courte durée en fait. Parce que ça débouche pas sur un lien véritable qui se crée entre les gens, sauf exception. Et à la limite, si vous comparez ça avec un échange que vous allez avoir avec un de vos amis, ou quelqu'un de votre famille dont vous êtes proche, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment... Il faudrait que je trouve un exemple pour que ça soit parlant. Mais par exemple, vous allez vivre un moment sympa, j'en sais rien moi, vous allez dans un endroit que vous n'aviez jamais visité et qui est super beau. Le fait de prendre une photo, de le partager sur Instagram, ça va moins vous ramener de plaisir d'échanger que si vous le partagez avec un ami qui va de suite peut-être engager la conversation, vous parler d'autre chose, vous dire que lui il a été à un autre endroit qui est encore plus beau, j'en sais rien, ça peut déboucher sur une conversation plus riche, plus développée, je pense, que juste publier une story ou voilà. Les inconvénients sont légèrement plus nombreux que les avantages, en tout cas c'est le constat que moi j'ai fait. Donc j'ai cherché des solutions, parce que je ne veux pas m'installer dans cette addiction au téléphone, je veux vraiment aller à l'essentiel. Donc une des premières solutions que j'ai trouvées, c'est de désinstaller Facebook de mon téléphone, et en fait d'arrêter de me servir de Facebook, c'est surtout ça. Donc le fait de l'avoir sur le téléphone, j'étais connectée souvent le week-end, donc du coup le fait de l'enlever, ça m'a permis déjà de restreindre mes heures de connexion à Facebook aux heures d'ouverture de la boutique. Parce qu'en réalité, donc, je suis obligée de conserver Facebook pour rester visible, pour que mon magasin reste visible sur Internet. Mais je ne veux plus m'en servir à titre personnel, donc je le garde uniquement sur l'ordinateur de la boutique et je ne m'en sers pas le soir et le week-end. Donc ça a déjà été radical. J'ai mis en place un message automatique de réponse, donc quand les gens m'envoient des messages le week-end et le soir, ils reçoivent un message automatique leur disant que le magasin est ouvert du mardi au samedi, voilà, en donnant les horaires, et du coup ils savent que je vais leur répondre à partir du lendemain matin 10h par exemple, ou à partir du mardi matin. Donc ça, c'est une chose. C'est vrai qu'au début, j'avais tendance à répondre tout de suite aux messages. Alors, on m'avait dit à la chambre de commerce que c'était très important que le badge, je sais pas si vous avez déjà vu, quand vous allez sur une page Facebook, vous avez un petit badge où il y a marqué très réactif aux messages, ça s'affiche en vert, où il y a juste marqué réactif et une estimation du temps de réponse, genre entre 15 et 20 minutes, ou réponse en général dans l'heure, voilà. Et donc à la chambre de commerce, quand j'ai fait mes démarches pour monter mon entreprise, on m'avait dit qu'effectivement c'était quand même très important, que c'était un critère important pour les clients de voir qu'on pouvait leur répondre, certes. Mais du coup, je m'étais mis vachement la pression par rapport à ça. Et du coup, je laissais Facebook en permanence sur mon téléphone le week-end. Et dès qu'on m'envoyait un message, je répondais tout de suite. Sauf que je me suis rendu compte que les gens m'envoyaient des messages parfois le dimanche à 23h. Donc moi, je leur répondais tout de suite, mais eux, ils me répondaient pas tout de suite. Ils me répondaient genre le mardi, quoi. Donc du coup, je me disais, mais pourquoi je me suis forcée à répondre tout de suite alors que ça m'arrangeait pas forcément, parce que le dimanche à 23h, vous vous doutez bien que bah, j'ai une vie aussi. Donc partant de là, je me suis dit, il faut vraiment que j'arrête au moins ça. Ça, c'était vraiment la première chose que j'ai fait, c'est de supprimer Facebook de mon téléphone et de ne le garder que sur l'ordinateur aux heures d'ouverture de la boutique. Du coup, j'ai fait aussi un tri dans les notifications. Ça, c'est la deuxième solution. J'ai désinstallé, enfin, j'ai désactivé toutes les notifications des applications qui n'étaient pas importantes sur mon téléphone. Et il y en a plein, hein, vraiment, il y en a plein. Donc, j'ai gardé surtout les applications de messages et d'appels, les textos, Messenger, parce que c'est un service de messagerie que j'utilise beaucoup avec mes amis. Et pour les autres applications, j'ai soit complètement désactivé, soit restreint à certains types de notifications. Donc, par exemple, Instagram, je ne reçois plus de notifications pour des likes. En revanche, je reçois quand même les notifications pour les messages privés que je reçois et pour les commentaires, puisque du coup, il y a un intérêt à ce que je réponde vite. Donc, je ne reçois plus non plus de notifications pour mes abonnements YouTube, je ne reçois plus de notifications pour les quelques jeux que j'ai installés sur le téléphone. Enfin, vraiment, j'ai fait un tour complet de mes notifications et je les ai toutes supprimées une à une, en ne gardant que celles qui étaient vraiment importantes. J'en ai profité aussi pour désactiver la fonctionnalité qui fait que les notifications s'affichent sur l'écran verrouillé de votre téléphone. Donc du coup, moi, ça s'affiche, mais le contenu est masqué. Donc ça évite que les gens lisent les messages que vous recevez, par exemple. Et ensuite, j'ai un petit service sur mon téléphone. Alors moi, je suis sous Android, mais il y a la même chose sur Apple. C'est un mode qui s'appelle Ne pas déranger. Ce mode-là, il désactive toutes les notifications, quelles qu'elles soient, au moment où vous le programmez. Donc moi, je l'ai programmé pour le soir à partir de 20h30, je crois, jusqu'à 9h30 le lendemain matin. Et également toute la journée du dimanche et toute la journée du lundi, parce que moi, mon week-end, c'est dimanche et lundi. J'ai mis des exceptions. Les seules exceptions, c'est les textos et les appels. Bon, faut quand même rester joignable en cas d'urgence, même s'il n'y a pas beaucoup d'urgence, mais bon, que mes parents puissent m'appeler par exemple, que ma soeur puisse m'appeler. Mais toutes les autres applications, y compris Instagram, dont j'avais quand même laissé quelques notifications, de commentaires, etc., en dehors des horaires de boulot, en fait, ça, mon téléphone ne sonnera pas pour des commentaires Instagram le week-end par exemple. Donc ça, je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est. Moi, ça m'a un peu. Ça m'a enlevé un espèce de poids. Je trouve qu'on est vraiment. Esclave des notifications. Je sais pas quel est le processus mental qui fait que dès qu'on entend le bip du téléphone pour une notification, on a instinctivement mais envie d'aller voir ce que c'est. Mais en fait, moi, tant que j'avais pas vu ce que c'était, c'est pas que j'étais pas bien, mais je sentais que j'avais un truc urgent à faire, quoi. Et l'urgence, c'était vraiment d'aller voir ce que c'était la notification. Et 9 fois sur 10, c'est un truc qui est vraiment pas important, quoi. Notamment, j'étais abonnée à des conversations de groupe sur Messenger et mon téléphone sonnait, j'en sais rien, moi je suis assise sur le canapé, mon téléphone est posé dans l'entrée sous mon sac, je reçois une notification, je vais me lever du canapé, aller voir ce que c'est, et c'est quelqu'un qui a mis un emoji clin d'œil dans la conversation de groupe, quoi. Et je me dis, je me suis levée pour ça en fait. Je me suis dit qu'il fallait vraiment, ne plus être esclave de ces notifications. Et le mode ne pas déranger, c'est vraiment ce qui m'a permis de souffler. Donc maintenant, ce que je fais le soir quand je rentre, c'est que je pose mon téléphone dans l'entrée. Il ne sonne pas, sauf si je reçois un appel ou un message, mais c'est très rare parce que les appels et les messages, C'est des gens que je connais qui m'envoient des messages en général, c'est pour me dire un truc important. Et en plus, il y a la possibilité de restreindre et de mettre uniquement des messages ou des appels de vos contacts. Donc, c'est-à-dire que les entreprises qui vous démarchent, genre SFR qui vous appelle ou d'autres pour vous proposer leur dernier forfait, s'ils ne sont pas dans vos contacts, du coup, ça ne va pas sonner. Mais même malgré tout ça, je trouve que j'y passe encore du temps, aussi parce que je suis obligée d'y passer du temps dans la journée. Donc j'ai installé une application qui s'appelle Space, S-P-A-C-E. C'est une application qui est pas mal faite et qui comptabilise le temps que vous passez sur votre téléphone dans la journée et qui vous met alors des objectifs. Je pense que c'est en fonction... Il y a 2-3 questions au début, quand vous l'installez, pour définir un peu votre profil. On vous demande qu'est-ce que vous, enfin, pour quelles raisons vous utilisez votre téléphone en priorité. Donc moi, c'est, j'avais mis pour m'informer, je crois, ou pour être divertie, je ne sais plus trop. Donc elle vous met un... Alors moi, j'ai un temps maximum par jour de 1h30 et un nombre de déverrouillages maximum également. Dès que vous dépassez votre objectif, au fur et à mesure que vous vous connectez, l'application vous envoie des petites pop-up pour vous dire... pour vous conseiller bah, d'éteindre votre téléphone et d'aller faire un tour, ou quand vous connectez, quand vous déverrouillez plein de fois de suite votre téléphone dans un espace de temps assez réduit, ou d'un moment elle vous envoie aussi des messages pour vous dire que bah, vu que vous étiez là il y a 5 minutes, il n'y a peut-être pas d'intérêt à ce que vous reveniez tout de suite. Et puis vous pouvez aussi observer votre progression. Là par exemple, je vois que le week-end, j'y passe beaucoup moins de temps que la semaine. Par exemple, je regarde pour la semaine dernière et même pour la semaine précédente, ce qui montre que le mode ne pas déranger fonctionne quand même pas trop mal chez moi. Par contre, c'est vrai que les jours de semaine, j'ai tendance à dépasser l'utilisation maximale d'une heure et demie, parce que du coup, je m'en sers au boulot, mais déjà, ça veut dire quand même une heure et demie, c'est vraiment beaucoup. Si vous prenez, je sais pas moi, une journée de 15 heures à peu près, je pense que c'est ça, ou à 8 heures, ou vous couchez vers 23 heures, on va dire que 15 heures c'est pas mal. Une heure et demie sur 15 heures, ça représente 10%. Donc ça veut dire que moi, déjà, si je respecte l'objectif de temps de 1 heure et demie, je passe déjà 10% de mon temps sur mon téléphone. Si vous ramenez ça à une année, ça fait plus d'un mois. Ça fait 36 jours et demi sur 365. 36 jours que je peux carrément enlever de l'année puisque je suis sur mon téléphone, donc je ne profite pas de la vraie vie. Donc c'est quand même énorme. Et c'est l'avantage de cette application, c'est de voilà, mettre des chiffres sur votre utilisation, qu'on a tendance, je pense, à minimiser de manière générale. Parce que comme c'est toujours par petites tranches de 5 minutes, vous n'avez pas l'impression d'y passer beaucoup de temps. Mais en réalité, chez moi, quand ça se cumule, ben, ça fait beaucoup. Quand je vois les chiffres, je me dis que vraiment... Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je laisse plus souvent mon téléphone de côté. Il faut que je trouve un moyen de ne pas l'avoir sous le nez, parce que le fait de l'avoir constamment sous le nez, ça donne envie de le déverrouiller pour aller glandouiller dessus. Il faut vraiment trouver un système. Et je pense que sans cette application et sans cet affichage des chiffres réels, j'en serais pas là dans ma réflexion. Du coup, ça m'a aussi poussée à réfléchir à autre chose et à essayer d'adopter une sorte de mécanisme. Quand spontanément j'ai envie de partager quelque chose, je me demande toujours à qui est-ce que j'ai vraiment envie de le partager. Quand il s'agit de choses sur le tricot, sur la boutique, évidemment que j'ai envie de le partager avec mes abonnés, ça c'est certain, parce que ça les concerne plus ou moins directement. Mais il m'arrive parfois d'avoir encore des envies un peu spontanées de partager des choses, y compris sur mon compte personnel, et je m'y refuse parce que je me dis toujours... Si je passe un moment sympa, s'il y a un concert que j'ai trouvé plutôt cool ou ce genre de choses, il faut que je le partage avec quelqu'un de la vraie vie et pas avec Instagram. Alors je le fais pas forcément, parce qu'il se trouve que je suis quelqu'un de plutôt introverti, donc je vais pas forcément chercher à entretenir beaucoup de liens avec les gens. Mais en revanche, je ne le partage pas non plus sur Instagram, parce que j'ai pas envie qu'Instagram m'amène cette fausse impression de réseau social. Je pense qu'Instagram et Facebook et les réseaux sociaux en général, c'est le seul moyen pour entretenir des réseaux sociaux importants. Mais est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un très large réseau de personnes autour de soi? Moi, en tout cas, c'est pas mon cas. Je sais pas si vous vous rappelez, au début de Facebook, on avait tous un peu la pression quand on rencontrait des gens qui avaient genre, je sais pas, 200 amis sur Facebook et nous, on en avait 70. On se dit, oh là là, je suis pas populaire. 70 amis, déjà, c'est énorme. Moi, si je compte les amis que j'ai autour de moi, ça, j'arrive pas à 70, quoi. C'est énorme. En réalité, c'est une fausse impression de popularité parce que réellement, dans la vraie vie, vous n'êtes pas capable, c'est pas possible d'entretenir au quotidien des liens avec 70 personnes. Ce n'est pas possible. Il y a forcément des gens qu'on laisse un peu de côté. Est-ce que j'ai réellement besoin d'avoir 50 amis ou 400 personnes qui regardent mes stories sur Instagram? Est-ce que ça va plus m'apporter en termes de, je sais pas, réalisation de soi ou en termes d'estime de soi? Est-ce que ça va plus m'apporter que d'avoir 10 amis, mais 10 vrais amis sur qui je peux compter, à qui je peux parler de choses intimes, personnelles, qui seront là pour m'aider quand ça ira pas? C'est une question un peu rhétorique, évidemment, que la réponse, c'est que je préfère avoir 10 vrais amis que 400 abonnés sur Instagram, c'est certain. Donc j'essaye vraiment de me poser cette question à chaque fois que j'ai l'envie de partager quelque chose. Là, récemment, par exemple, j'ai fêté mes 4 ans, enfin nos 4 ans de vie commune avec mon compagnon. On est allé manger au resto, j'ai eu envie de prendre une photo et je ne l'ai pas partagée. Mais en la prenant, je savais déjà que j'allais pas la partager. Parce que c'est quelque chose en fait qui ne regarde que nous ou nos amis. Et c'est pas quelque chose qui regarde mes abonnés Instagram. Même si ça fait toujours plaisir, je sais que si je l'avais partagé, j'aurais eu des messages gentils. Et ça me touche et ça me fait plaisir. Mais j'ai quand même envie de garder aussi, de me focaliser un peu sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que les gens que j'aime autour de moi soient heureux pour moi en fait. C'est un peu ça. Je sais pas trop comment le tourner parce que c'est compliqué de parler d'Instagram qui me sert au niveau professionnel. C'est compliqué d'en parler parce que je veux pas que les gens aient l'impression que du coup les liens que j'entretiens sur Instagram avec des personnes qui viennent aussi à la boutique ne comptent pas pour moi. C'est pas le cas, c'est juste que c'est différent en fait. C'est vraiment très différent. Les amis qu'on peut avoir dans la vraie vie et les abonnés qu'on a sur Instagram qui sont très actifs sur nos comptes, qui commentent régulièrement. Alors, il se trouve que c'est souvent les mêmes, j'avoue. C'est vraiment deux choses différentes. Et je pense que je nourris secrètement l'espoir que les personnes avec qui je communique le plus sur Instagram deviennent un jour des amis potentiels de la vraie vie. Voilà, ce serait mon vœu le plus cher. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il a suscité des questionnements en vous. Si vous avez vous aussi expérimenté ce genre de problématiques par rapport aux réseaux sociaux, n'hésitez pas à commenter sur le blog pour me raconter. Je serais très contente d'échanger avec vous sur ce sujet. Vous pouvez bien évidemment commenter sur Instagram, la bonne blague, ou sur Facebook, comme vous préférez. En tout cas, je serais ravie d'avoir vos avis sur ce deuxième épisode et puis je vous donne rendez-vous pour un troisième dans quelques semaines. Voilà, à bientôt!